Cédric Lahurie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la recherche chez ISS, Institution Shareholders Services, donc en France. On va parler avec vous de ce rôle des proxys hein, au moment où les assemblées générales se sont tenues. Comment justement, quel est le profil d'ISS? Quel est votre rôle aujourd'hui?
Alors, ISS est un des plus gros proxy advisors. Donc un proxy advisor est une société effectivement de conseil en vote. Donc notre métier est de fournir de la recherche et des recommandations de vote aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion, fonds de pension, caisses de retraite.
Justement, quand on regarde ce bilan 2018, de votre point de vue, les entreprises eh bien, sont attentives à ces consignes de vote qui arrivent comme ça au fil des assemblées.
Je ne dirais pas qu'elles sont attentives aux consignes de vote des proxy advisors ISS ou autres, mais qu'elles sont beaucoup plus attentives effectivement au vote de leurs actionnaires. Le dialogue entre les sociétés et les investisseurs et de temps en temps effectivement aussi avec les proxys s'est considérablement développé sur les dernières années et continue d'évoluer encore en passant à un nouveau niveau qui est effectivement un dialogue direct entre les actionnaires et les conseils d'administration. Dialogue qui était auparavant intermédié par le biais des relations investisseurs ou du secrétaire général.
Ce qui veut dire que même avant une assemblée générale, puisqu'on a les résolutions, on a un certain nombre d'éléments, il peut y avoir des discussions qui montrent ce que les investisseurs, peut-être des sujets de préoccupation d'investisseurs.
Alors le dialogue, je dirais, avec les sociétés les plus avancées commence dès l'automne, c'est-à-dire à un moment où les résolutions ne sont pas encore validées par le conseil d'administration. Donc un certain nombre de sociétés viennent nous présenter des projets effectivement de résolution, des projets d'évolution de gouvernance, pour savoir effectivement ce qu'ISS et ce que leurs grands investisseurs en pensent. Ce qui évite de mauvaises surprises une fois que les résolutions effectivement sont gravées au ballot, c'est effectivement beaucoup plus difficile de changer.
Quand on regarde les grandes tendances, il y a des sujets qui reviennent plus précisément. On pense à la rémunération des dirigeants, on pense au sujet de gouvernance. Il y a vraiment des sujets un petit peu clés de ce type de rendez-vous.
Alors depuis l'introduction effectivement du CNP, la rémunération prend une place très importante, voire trop importante, puisque ce n'est qu'un aspect de la gouvernance. Mais ça a quand même permis une amélioration du dialogue. Comme c'est un sujet relativement sensible, les sociétés ont voulu discuter sur ces sujets. Mais effectivement, on ne parle pas que rémunération, on parle aussi gouvernance sur la composition du conseil, ce qu'a fait le conseil, quelles sont ses évolutions, et aussi de tous les sujets effectivement, qui légalement sont à l'agenda de l'Assemblée générale et sur lesquels on doit émettre des recommandations pour le compte de nos clients.
Ça veut dire vraiment aller pour vous dans le détail hein, de toutes ces résolutions, les conventions réglementées et d'autres aspects pour essayer de donner les éléments clés à l'investisseur sur ces questions.
Ah bah là, on va éplucher effectivement tous les documents de référence, les brochures de convocation, alors le rapport effectivement spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées, qui est effectivement une source d'information, pas toujours suffisante effectivement pour comprendre l'intérêt des conventions, mais effectivement pour déceler les possibles conflits d'intérêts. Soit entre la société et son dirigeant, soit entre la société et son actionnaire de contrôle, c'est quand même un élément très différenciant, puisque bizarrement, la France est un des seuls pays à avoir un vote aussi systématique sur les conventions réglementées et qui permet effectivement d'exprimer une opinion sur ces possibles conflits d'intérêts.
Quand on parle de ces sujets, est-ce que les entreprises justement prennent un peu plus en compte? Parce que finalement, quand on voit les pourcentages hein, sur les votes, on voit dans certains domaines que typiquement, on sent qu'il y a eu entre guillemets une fronde d'actionnaires, que ce soit les institutionnels ou d'actionnaires particuliers. Est-ce que derrière, il y a une prise en compte ou est-ce que même si la résolution est votée, mais on va dire avec un taux faible, finalement, les entreprises ne bougent pas?
Je pense qu'on commence à avoir effectivement deux catégories de sociétés. Enfin, dans celles qui ont des oppositions, après il y a les très bons élèves qui ont des taux encore, je vais dire, presque staliniens. Mais sur les sociétés qui ont un certain pourcentage d'opposition, on va trouver une catégorie de sociétés qui va chercher à comprendre et à modifier ses pratiques pour répondre aux attentes des investisseurs. Et une seconde partie, alors il y a les sociétés contrôlées, et avec un certain niveau de contrôle, effectivement, elles auront des scores, je vais dire, qui visuellement seront à 70-80%, Mais si on les retraite, on va se rendre compte que plus de la majorité des minoritaires ont voté contre et qui vivent très bien avec. Et on a aussi des sociétés non contrôlées, mais qui vivent très bien avec des oppositions récurrentes à 30, 35%. Et ça, je pense que c'est un véritable problème. Un problème de réactivité du Conseil. Et je pense que les investisseurs ne vont pas s'arrêter effectivement à cette situation de stagnation. Et au bout d'un moment, vont reporter effectivement leur vote négatif sur les réélections de ces administrateurs qui ne réagissent pas à des taux d'opposition quand même très substantiels.
Ce qui veut dire qu'à moyen terme, ce n'est pas forcément dans l'intérêt de l'entreprise, même si elle pense qu'à court terme, c'est dans son
Non,
intérêt.
elle peut effectivement gagner du temps parce que les investisseurs, effectivement, sont assez patients sur ces sujets. Mais je pense qu'après 2, 3 années de messages clairs envoyés, s'il n'y a aucune réaction de la société, il y aura une sanction, notamment contre des réélections d'administrateurs. Alors le problème, c'est qu'effectivement, en France, on n'est pas sur un modèle de réélection annuelle. Donc il faut pouvoir l'exprimer une année où il y a des administrateurs pertinents sur lesquels s'opposer.
Un mot des rachats d'actions dont on entend de plus en plus parler et on voit des résolutions de rachats d'actions, mais on peut voir aussi ce type de résolution dans des périodes où, pour telle ou telle entreprise, on peut constater aussi que l'entreprise est plutôt endettée. Donc, en tant qu'actionnaire, on aurait envie de dire, bah, c'est peut-être pas le moment de racheter encore des actions dans ce contexte-là.
Alors le problème, c'est quand la société nous propose un rachat d'actions, elle ne nous donne pas effectivement l'utilisation qu'elle va en faire. Alors, un grand nombre de sociétés demandent régulièrement, puisque c'est une autorisation de 18 mois, donc elles sont renouvelées à chaque assemblée. Toutes les sociétés le font et un grand nombre ne les utilisent pas. Donc c'est assez difficile de s'opposer à ces autorisations de flexibilité. C'est à peu près la même chose sur les autorisations financières, où on accepte un grand nombre d'autorisations financières, alors sur des montants effectivement limités, on donne pas carte blanche, mais voilà, sans savoir effectivement ce que la société va en faire. Faut pas rentrer non plus dans une sorte de, je vais dire, de micromanagement. C'est pas le rôle des actionnaires de tout décider. Donc faut laisser une certaine flexibilité à la société et à son conseil d'administration. Effectivement, si cette flexibilité est mal utilisée, je veux dire un peu pareil que sur la question des rémunérations ou des oppositions récurrentes. Dans ce cas-là, il faut se retourner effectivement contre le Conseil qui a mal utilisé cette flexibilité qui lui était donnée.
Sur les droits préférentiels de souscription, est-ce que ça fait partie des sujets sensibles pour les investisseurs sur lesquels que vous conseillez?
Alors, ça a été un sujet sensible, je vais dire, il y a 10 ans. Et depuis, la plupart des sociétés, en fait, se sont alignées sur les pratiques de marché, qui sont 50% sur la VEC DPS, 10% sur le 100 DPS. Et finalement, il y a très très peu de sociétés qui sortent de ces seuils. On en trouve encore effectivement dans des sociétés contrôlées ou dans des petites sociétés qui ont des forts besoins de croissance. Donc là, ça sera une étude effectivement au cas par cas en fonction de l'argumentation de la société. Mais sinon, pour le CAC 40 et je vais dire même l'essentiel du SBF 120, ces seuils sont respectés la plupart du temps.
Est-ce que vous avez constaté de l'intérêt pour tout ce qui est sujet, les sujets qui concernent aussi bien les droits de l'homme que l'environnement, le dérèglement climatique, par exemple, ce genre de choses?
Alors, il y a un gros intérêt de la part de nos clients sur ces sujets-là. Sauf que le système des AG françaises n'est pas, je veux dire, le plus propice à l'intégration de ces sujets. Si on regarde par exemple le modèle américain, on peut déposer une résolution avec 2 000 $ en actions détenues pendant un an. Donc quasiment n'importe qui peut déposer une résolution. Et sur un périmètre de sujet qui est assez large. Donc on peut se retrouver avec effectivement de l'environnemental, du social, des droits de l'homme. En France, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut entre 0,5 et 5% du capital pour déposer une résolution. Et les sujets sur lesquels on peut les déposer sont beaucoup plus restreints. Et l'arbitre qui va décider si le sujet de la résolution rentre dans les prérogatives des actionnaires est le conseil d'administration. Donc le conseil d'administration peut enfin refuser de mettre à l'ordre du jour une résolution d'actionnaire sans beaucoup d'explications. Et après, il faudrait aller en justice. Donc ça devient très compliqué comme outil pour les investisseurs. Donc le dialogue sur ces questions, je vais dire ESG, se fait plus en dialogue direct que pendant les AG.
Merci Cédric Lavery d'avoir fait le point avec nous.
Je vous en prie.